Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Et bonjour à tous, et si vous nous écoutez en ce dimanche, Pascal, c'est Pâques, ben oui. Voilà, ben joyeuse Pâques, profitez-en si vous avez congé demain, yes. nous, ben on est là, on est au poste, alors Alain McKenna, salut.
Bonjour Benoît.
Bon, aujourd'hui à l'émission, on va recevoir un monsieur qui s'appelle Sami Benhamza.
Yes.
Qui a quelque chose d'intéressant, oui. On est dans le solaire.
C'est le président d'une entreprise qui s'appelle Cap Solar, Ils viennent d'inaugurer il y a deux semaines à Montréal une usine de fabrication de panneaux solaires.
Okay.
Évidemment, dit comme ça, c'est plutôt banal, mais il se spécialise dans l'énergie solaire pour les véhicules.
Ah.
Donc, lui, il pense que d'ici quelques années, on va pouvoir avoir des vrais capteurs solaires sur nos autos,
oui.
Et améliorer le rendement de
parce que j'ai substantiels. Beaucoup de questions là-dessus, souvent. J'ai des questions assez pointues pour lui, ça va être intéressant.
Oui, monsieur.
Donc, ça, c'est notre invité. En essai routier, tu vas nous présenter quoi, toi, cette semaine?
Ben, j'ai fait quelque chose qu'on fait pas souvent. J'ai conduit une Tesla parce que...
Non, c'est vrai qu'on fait pas ça souvent parce qu'on nous aime pas chez Tesla.
Ben, Tesla a maille à partir, comme on dit, avec les
médias. Non, c'est pas maille à partir, ils ont fermé relations publiques.
Donc, de temps en temps, et là, j'ai eu la chance d'essayer une Tesla modèle Y grâce à une application qui s'appelle Turo, je vous en reparlerai, mais c'est le Airbnb de l'automobile. On peut louer, ouais. Ou on peut louer, c'est-à-dire offrir à l'occasion ou louer,
okay.
Des véhicules sur cette plateforme-là. Puis ils m'ont offert de l'essayer et c'était l'occasion d'essayer une Tesla.
Ben,
parce que sinon, il
n'y
avait
pas
vraiment à moins de connaître quelqu'un. Mais c'était plus facile de même. Bref.
OK, moi, de mon côté, je vais vous parler du Ranger parce que je suis allé du côté de Salt Lake City ou Utah faire l'essai du Ranger régulier et le nouveau Ranger Raptor. Le Raptor, donc, on va parler de ça. Puis, bon, évidemment, on commence toujours par les nouvelles.
Oui.
Alors, je te laisse aller de ce côté-là.
Écoute, je suis un peu jaloux depuis quelques semaines parce que tu as des embargos qui lèvent à gauche et à droite. Et c'était mon tour d'en avoir un à propos de la classe G, ou je dirais du classe G de cinquième génération de Mercedes-Benz. Ceux qui ont suivi ça l'ont vu faire des beignes sur la strip à Las Vegas.
Oui,
c'est une phrase
oui.
Que j'aurais jamais pensé dire. Mais en janvier dernier, c'est là-bas où Mercedes-Benz a présenté le véhicule. Et là, c'est cette semaine qu'on lève le voile sur cette plus récente version de son Gelände. De Wagen, comme on dit en bon allemand. Ça, c'était vraiment pas mon bon allemand. C'était le meilleur allemand que je peux faire malgré tout. Mais bref, c'est un 4x4 qui change beaucoup, mais qui change pas beaucoup en même temps. Parce que c'est assez apparent au premier coup d'œil. La Mercedes n'a pas voulu trop changer la silhouette du véhicule, qui est très carré, très classique. Il y en a qui vont dire que c'est intemporel. Évidemment, c'est une question de goût. On reconnaît le classe G original qui date de 1979, mais le capot, la calandre, les pare-chocs, tout en dessous de la carrosserie aussi a changé et est pas mal plus moderne. On va dire ceci, ce camion-là a une allure très unique. Hein? Il est difficile à pas reconnaître sur la route.
C'est assez dur. Si on en a vu un en 79, alors que c'est la première année qu'il était sur le marché, vous reconnaîtriez le modèle d'aujourd'hui.
Exact. Et fidèle à la tradition chez un constructeur allemand, il est offert en au moins 4 variantes par Mercedes. Il y a une de ces versions-là qui est une version électrique, et on va vous en parler plus tard, parce que je ne vais pas vous dire que j'ai un autre embargo, mais c'est ça. Les trois versions à moteur thermique sont le G550 de base. Là, j'ai vu, ça va être à définir, parce qu'il y avait aussi G500 dans la fiche technique. Là, on verra bien qu'est-ce qu'ils vont falloir décider, mais ils nous l'ont présenté comme le G550. Il y a deux versions G63 AMG, dont une version Off-Road Edition qui, vous l'avez compris, est faite sur mesure pour faire de l'ascension d'un volcan en pleine éruption. Parce que c'est souvent comme ça qu'on nous présente ces véhicules-là.
Ça va prendre des bons pneus.
Plus que du caoutchouc. Il y a une suspension hydraulique ajustable. Il y a trois différentiels à blocage manuel. Il y a des roues et des garde-boue exclusifs pour ce modèle-là.
Oh,
on a des modes de conduite exprès pour ne jamais tomber en bas de la falaise.
Si lui passe pas dans le bois, tout le monde reste en arrière.
En fait, lui, il passe pas dans le bois. Il passe par-dessus le bois. Il arrache le bois. Il se fout du bois. C'est écoute, c'est un véhicule.
Il n'y a pas de bois.
Exactement. En fait, on a le présenté dans le désert du Nevada pour une raison. Parce que
il n'y a pas de bois.
Il n'y a pas de bois. Tout ça, évidemment, cette édition-là, Off-Road, repose sur la mécanique du G63 AMG, lui-même déjà un monstre, qui est propulsé par un V8 biturbo. Je ne pensais pas que ça revenait, mais clairement, ça revient.
En fait, il n'est pas mort. C'est qu'on l'a gardé encore un peu.
Ben voilà.
Mais sachez que si vous vivez en Europe, il y a une taxe de 60 000 $ sur ce véhicule-là, qui est à part du prix du véhicule, parce que n'importe quoi qui fait plus de 194 grammes au kilomètre de CO2 est à 60 000 euros. Ça, c'est 90 000 $ de taxes.
Oui. Et ben, c'est de la démesure. Et on taxe la démesure parce qu'il n'y a pas besoin de ce moteur.
Tu vas rire, mais le AMG GT 43 qu'on vient d'amener avec un 4 cylindres, 2 litres, turbo, pas un gros moteur, mais il y a 416 chevaux, il produit 236 grammes par 100 km. Donc, 60 000 euros de taxes. Alors, si vous en voulez un, accrochez votre sucre. Une Mustang V8 en Europe, là, en fait, en France, parce que c'est en France, la norme que je vous donne, une Mustang GT avec le 4 litres, le V8.
Litres. Ah, le V8, le V8. Excuse, ben oui.
C'est 200 000 $. Alors, si vous envoyez un en Europe, vous êtes « Ah, lui, il a de l'argent.
» Il a un budget où il connaît le ministre, allez savoir. De toute façon, le V8, dans le classe G, on s'entend, là, il permet de boucler le 0-100 km/h en 4,3 secondes, ce qui est complètement déjanté.
Oui, pour 2,5 tonnes, c'est assez impressionnant.
Écoute, on a des roues de 22 pouces, un échappement qui a été devancé devant les roues arrière pour chercher un petit peu plus de oomph, je vais dire comme ça. On trouve beaucoup de fibres de carbone pour l'alléger un peu, mais il reste très pesant. Il y a une suspension variable ajustable électroniquement qui assure une conduite irréprochable, peu importe où vous roulez. Ça, c'était l'AMG. De base, le Classe G est animé par un 6 cylindres aidé par un petit moteur électrique de 48 volts, la fameuse hybridation légère. On dit que la consommation moyenne est réduite de 3 litres au 100 km par rapport à la génération précédente. Ça va être à tester, ce qu'on n'a pas pu faire là-bas. À bord aussi, c'est la totale. Il y a le nouveau système M-Box avec MBOS.
Oui.
Ça, c'est l'interface et le système multimédia qui ont tous des noms bien fuckés chez Mercedes, mais ils aiment ça comme ça. Il y a une sonorisation Burmeister qui, écoute, je sais même plus combien de haut-parleurs, mais c'est certainement un record. Il y a du son 3D spatialisé, la fameuse norme Dolby Atmos.
Oui. C'est un système de son qui frôle les 10 000 $
à lui seul, exactement. Oui. Il y a un système de caméra extérieure qui offre une vue à 360 degrés, qui a été révisé, qui est écœurante, je veux juste dire ça comme ça. C'est en soi un divertissement, en fait. Évidemment, on a hâte de conduire tout ça. Là, on va le savoir dans les prochains mois, qu'est-ce que ça donne concrètement sur la route ou dans la boue.
Ils vous ont-tu donné un prix pour cette chose?
Ben, malheureusement, non. Parce que je pense qu'on serait resté, ils nous auraient enterrés dans le désert du Nevada ensuite, parce que c'est le genre d'information que si on vous le dit.
Parce que en version G63, là, on doit être dans les 250 000. C'est clair.
C'est un véhicule iconique qui a une puissance d'attraction qui attire les gens et probablement qui finissent par racheter des GLC ou des GLE ou des véhicules un peu plus raisonnables quand ils voient l'étiquette. Mais c'est un véhicule qui est iconique. Donc, nécessairement,
on dit en anglais un crowd gatherer.
On n'a pas parlé de l'électrique qui va probablement lui aussi coûter une petite beurre.
Oui, parce que le Classe G va avoir un modèle électrique. Mm-hmm. Et oui, quoique là, on est en train de beaucoup reviser sa stratégie du côté de chez Mercedes, parce que s'il y a une compagnie qui a fait un flop monumental en électrique...
Est-ce qu'ils ont promis, ce qu'ils ont livré, sont deux choses disparates.
Quand on dit que les concessionnaires sont pris avec, là, ils sont vraiment pris avec. C'est pas une clientèle qui a adhéré à l'électrique encore. Pas du tout. Alors, d'accord. Autre nouvelle.
Ben, écoute, on va aller ailleurs. Les États-Unis ont décidé de rehausser leurs normes sur la consommation des véhicules. Là, il y a différentes lignes là-dessus. Soit c'est plus sévère, soit c'est moins sévère, dépendamment où vous vous tenez. Mais le département américain de l'énergie a essentiellement revu la façon dont il calcule l'équivalence de consommation des véhicules électriques pour lâcher un peu de lest. Ça, c'est une belle expression, je peux dire, pour donner du lousse en bon français, envers les constructeurs d'automobiles qui demandaient justement au gouvernement de le faire. Concrètement.
Donc, on a un peu plié du côté de l'EPA et on dit aux constructeurs, OK, on va être un peu moins sévère, donc on pourrait faire des moteurs à gaz plus longtemps.
Essentiellement, c'est ça, exactement.
Pour moi, j'ai bien saisi.
Ce que j'ai trouvé intéressant et c'est rare, c'est que autant les environnementalistes que les constructeurs s'entendent pour dire que c'est une bonne affaire. Et ça, c'est rare que ça arrive à l'automobile.
Ah oui, quand même.
Ouais.
OK.
Je vais vous donner une salade de chiffres. Je vais faire mon petit chef et après, on discutera de ce que ça veut dire. Les États-Unis ont fixé une norme d'équivalence de 80 kWh par gallon pour les véhicules électriques en 2027. Et elle va se resserrer très rapidement pour atteindre 29 kWh au gallon en 2030. La cible était initialement d'un peu plus de 23 kWh au gallon. Donc, c'est là où on a un petit peu plus de jeu pour les constructeurs.
Puis là, on est où en ce moment? C'est quoi le chiffre en ce moment?
En ce moment, on est au-dessus de 80, mais ça commence. Okay. Je sais plus. C'est
donc, on resserre, mais moins vite que prévu.
Exactement.
Okay,
ça reste assez abstrait parce que c'est une équivalence qui est basée sur la notion qu'on fait 300 000, donc 480 km par recharge sur une voiture électrique, puis ça varie d'un véhicule à l'autre.
Ouais.
C'est un paquet de troubles. Mais dans l'absolu, ça va permettre aux constructeurs de continuer à vendre des véhicules à essence qui consomment un peu plus, au moins jusqu'en 2030. Pour concentrer leur investissement sur une plus grande production de véhicules électriques. Ça, c'est la théorie. La pratique, on imagine que les constructeurs vont continuer de grommeler. J'utilise des mots des fois comme
grommeler.
De grommeler, plaindre, c'est ça, de bougonner au moins jusqu'en 2030.
Est-ce qu'on dit je grommelle, tu grommelles, ils grommellent?
Nous grommelons.
Nous grommelons.
Il y a les gremlins qui font d'autres choses, ça, c'est une conversation. Ce que les environnementalistes disent, et ce que les constructeurs, justement, semblent aussi dire, c'est que ça pourrait se traduire par de meilleures ventes de véhicules électriques plus tôt, donc en route vers 2030, puisque chaque constructeur devra vendre davantage de véhicules zéro émission pour atteindre la cible de consommation moyenne de l'ensemble de leur catalogue, la fameuse norme CAFI.
Oui, norme CAFI.
Norme CAFI, qui est le Corporate Average Fuel Emission, l'expression complète. C'est une bonne nouvelle, ça donne façon pour nous aussi, parce que la norme CAFI, on le sait, même si c'est pas la plus sévère, elle est très respectée par l'industrie. Et le Canada, d'ailleurs, suit cette norme-là quinzaine d'années dans ses propres cibles de consommation. Bref, on peut espérer, en tout cas, espérons-le, n'est-ce pas, que les constructeurs vont faire plus d'efforts pour amener au Canada également plus de véhicules électriques, ce qui va aider à accélérer la fameuse transition à réduire les émissions polluantes, qui est l'objectif final dans tout ça. Mais c'est à suivre et tout le monde... sérieusement, ce qui fait la nouvelle, c'est que tout le monde est d'accord que c'était la bonne chose à faire. Donc, à ta boy pour ça.
OK. De mon côté, tiens, je ramène un nom que vous avez peut-être connu dans le passé, Bricklin.
Ça, c'est du
Malcolm
vieux,
Bricklin.
C'est
il y a
vieux,
eu
ça.
Le véhicule fabriqué au Nouveau-Brunswick, la Bricklin, qui a été aussi mauvais que bref sur le marché. Malcolm Bricklin a roulé dans la farine tout le Nouveau-Brunswick au grand complet, y compris le premier ministre de l'époque, qui a été un désastre. Mm-hmm. Malcolm Bricklin a 85 ans aujourd'hui. Et il a présenté un modèle qui s'appelle le Bricklin 3EV. En fait, c'est le prototype d'une nouvelle marque éponyme qu'il souhaite commercialiser. Moi, si j'étais vous, je n'investirais pas dans cette compagnie-là tout de suite. Ouais. 50 ans après avoir lancé la Bricklin, qui est arrivée en 1974, imaginez. En fait, c'est un modèle très joli qu'on a présenté devant le American Muscle Car Museum près de Melbourne, en Floride. On ne croit pas que ce modèle-là va aller au stade de production, mais Michael Bricklin et son fils Mark voulaient présenter ce concept-là, en fait, qu'on a commencé à concevoir en 2017, et on regarde le marché, mais disons que tu sais, il y a des gens, tu dis, lui, il est bien fin, mais j'y passerai pas une pièce. Michael Bricklin fait partie de cette catégorie-là de gens pour qui, oui, on accepte, vous êtes bien fin, mais non. Non, vous allez sortir l'argent de vos poches.
Merci, mais non merci.
En fait, il avait connu quand même plusieurs années dans le milieu automobile, Michael Bricklin. C'est lui qui a vu à l'arrivée dans les années 60 des premières Subaru en Amérique du Nord, les 360, qui étaient les tout petits modèles. Il est resté un peu partout dans le monde automobile. Et là, le duo père-fils sollicite des distributeurs et revendeurs en espérant leur soutirer quelques millions de dollars comme on l'avait fait au Nouveau-Brunswick pour présenter ce modèle-là. Mais vous irez voir, la Bricklin, ça s'appelle la 3EV. C'est un modèle là, qu'on a vu, qui est très joli, faut le dire. Là, cela dit, il est très, très joli. Mais si vous voulez investir là-dedans, c'est un risque. Et tiens, nouveau modèle aussi qui arrive sur le marché, mais celui-là d'une firme un peu plus sérieuse, Mercedes-Benz. La AMG GT va avoir un modèle 43 cette année, mais je le disais tantôt, avec un moteur 4 cylindres. Mm-hmm. Ça, c'est assez différent. Les gens sont un peu sceptiques parce qu'on dit, on est habitué, le 43, c'est un 6 cylindres. On avait des 63 avec des 8 cylindres. Mm-hmm. Là, on a un moteur 2 litres qui fait 416 chevaux quand même, 369 livres-pied de couple.
Pour un 2 litres, là, pour un 4 cylindres.
Pour un 2 litres, c'est extrêmement puissant. On ne l'a pas essayé encore. On a hâte de voir parce que ce qu'on perd beaucoup, c'est la sensation.
Ah, le bruit,
parce que la puissance va être bonne. Mais c'est dur de faire sonner un 4 cylindres comme un 6. T'as robot essayer toutes les ruses du monde. Il y a des principes de physique. Tu peux pas, tu peux pas combattre. La gravité en est une. Mais au niveau du son, le 4 cylindres, même si on a travaillé ça, on a bien hâte de voir chez Mercedes. Moi, j'ai parlé il y a pas longtemps aux gens, à quelques personnes de chez Mercedes qui sont chez AMG, qui m'ont dit que, on est un peu triste parce que c'est pas là-dessus qu'on travaillait. Cela dit, vous allez faire un 0-100 à 4,6 secondes. Vous allez avoir une vitesse de pointe de 280 km/h, ce qui est bien assez pour vous envoyer en prison. Mais, cela dit.
Tu le dis comme ça, tu sais.
Ben, je sais pas ce que tu dis à un policier quand tu te fais ramasser à 270. excusez, je m'en suis pas aperçu.
Ben là,
non.
Ouais.
125, tu peux peut-être dire que tu t'en es pas aperçu.
C'est possible, c'est un 4 cylindres.
J'ai juste 4 cylindres. Mais ça va arriver comme modèle 2025, donc ça arrive d'ici l'été, fin de l'été. Ça va être facilement à plus de 100 000 $. On n'a pas donné de prix du côté de chez Mercedes. Ça va se Porsche Cayman, c'est à peu près ce que je vois de plus proche là, comme un concurrent, parce que le Cayman aussi, il y a 4 cylindres. Bon, à part les modèles GTS.
Il faut dire qu'ils font de la magie avec les 4 cylindres turbo de nos
jours. Oui, absolument.
On va dire ça comme ça.
J'ai bien hâte de voir comment on va transporter ça, qu'est-ce qu'on va faire avec, mais il est clair que c'est un changement de paradigme. Et là, on a hâte de voir si la clientèle qu'on connaissait va suivre.
Ouais.
C'est surtout ça qui va être intéressant à voir parce que l'avenir de la compagnie en dépend un petit peu.
Hein? Oui, effectivement.
Alors, voilà. Donc, ça, c'est nos nouvelles cette semaine. On va aller à une première pause et on revient avec notre invité de la semaine.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
Des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Notre invité de cette semaine est fondateur et PDG de la compagnie Capsolar. Il s'appelle Sami Benhamza et on va parler de technologie de panneaux photovoltaïques adaptables.
Mon Dieu, tu dis ça comme ça, hein? Puis c'est ça, c'est très savant.
Ah, c'est très savant.
Des panneaux solaires!
Des panneaux solaires. Monsieur Benhamza, merci d'être avec nous. Bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup de m'avoir.
Oui, alors, je disais que Capsolar développe et fabrique des panneaux solaires sur mesure pour l'industrie de la mobilité électrique. Donc, et on se spécialise dans les véhicules. Et ça m'a intrigué parce que ça fait longtemps qu'on a des questions en se disant quand est-ce qu'il va y avoir des panneaux solaires sur les véhicules?
Ça reste au niveau du concept depuis de nombreuses années.
On est là-dedans. Êtes-vous en train de nous dire que vous travaillez là-dessus pour avoir quelque chose de véritable qu'on va pouvoir installer sur des voitures?
Exactement. C'est ça notre mission chez Capsolar.
Bon, ben parlez-nous de ça. Vous êtes en développement depuis quand? Ça a commencé quand? Vous en êtes où dans vos recherches présentement?
Oui, bien sûr. En fait, l'entreprise a été lancée il y a bientôt 4 ans maintenant. Elle a été lancée en juin 2020. À l'époque, j'étais étudiant en génie mécanique et j'ai gradué.
Okay.
En fait, c'était mon projet de fin d'études.
Wow.
Et mon objectif, en fait, pendant mes études, c'était de trouver moyen d'intégrer et de montrer qu'il y avait un intérêt pour l'énergie solaire dans l'industrie des véhicules. Donc, c'était mon projet de fin d'études. Et depuis, quand j'ai fini mon projet, le COVID a commencé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas lancer mon entreprise? Parce que de toute façon, le marché du travail est un peu dans une situation complexe. Disons.
Effectivement.
En 2020,
effectivement,
je peux comprendre.
Exactement. C'était en plein 2020. Donc c'est ça. Donc, depuis la fin de mon projet, je suis en plein là-dedans. Aujourd'hui, l'entreprise a beaucoup évolué. Mais le concept reste le même. Notre mission, c'est vraiment de trouver moyen d'intégrer l'énergie solaire dans l'industrie de la mobilité.
OK. Là, parlez-nous un peu de ce que vous avez. D'abord, votre prémisse, vous êtes parti d'une idée, vous êtes parti d'un concept. Comment ce concept-là a évolué? Et on est où dans la recherche pour effectivement avoir des produits qui vont intégrer votre technologie?
Oui. Donc, la grande question, en fait, c'est les voitures en tant que telles. L'enjeu d'intégrer des panneaux solaires dans les véhicules, donc les véhicules routiers qu'on peut conduire, vous et moi, c'est vraiment, je dirais, l'esthétique. Donc, une compagnie comme, par exemple, Mercedes, qui est connue pour travailler l'intégration de panneaux solaires dans les véhicules, comprend que d'un point de vue technologique et d'un point de vue marché, la solution est là. Mais l'enjeu, c'est que les panneaux solaires traditionnels qu'on voit sur des maisons sont pas assez beaux pour être intégrés dans des véhicules et garder l'aspect esthétique que ces gens cherchent dans les voitures.
Okay.
Donc, nous, chez Capsolar, en fait, on a réalisé ça assez vite. Et on s'est dit, OK, donc il faut trouver moyen de développer une technologie qui nous permet de garder l'esthétique des véhicules tout en rajoutant justement cet avantage d'énergie solaire, c'est-à-dire une résilience énergétique, être capable d'avoir une source d'énergie à bord même du véhicule, tout en gardant l'aspect esthétique mis de l'avant.
Bon,
mais comme j'ai expliqué, c'est un peu compliqué. Je pourrais expliquer plus en détail.
Exact. Mais moi, j'avais parlé il y a quelques années avec des ingénieurs de chez Toyota qui m'expliquaient, parce qu'on avait eu, pour des modèles Prius, on avait mis des panneaux solaires sur le toit.
Il y a eu le toit solaire, il y a eu le capot solaire.
Il y a eu le toit solaire qui a été, même aux États-Unis, là, on le vendait comme option. Mais les ingénieurs m'expliquaient, écoutez, il ne faut pas penser que vous allez recharger la batterie avec ça. Là. C'est à peine suffisant pour ventiler le véhicule sans même le refroidir. Là, on ne partait pas de partir le compresseur pour la climatisation. Là. On parlait seulement de ventiler à l'intérieur du véhicule pour des journées où il fait très chaud. Mais est-ce qu'on va être en mesure de développer des piles qui vont être assez fortes pour amener du travail supplémentaire ou recharger des piles? On peut-tu penser à ça aujourd'hui?
Oui. Ben, je dirais qu'il y a eu deux changements depuis ces temps-là. Donc, Toyota sont connus pour avoir travaillé dans le solaire, dans les Prius, depuis 2010. L'enjeu, en fait, c'est que travailler sur, on va parler en watts, des panneaux qui font environ 200 watts.
Okay.
Donc, c'est une capacité, une puissance très faible.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, nous, ce qu'on vise, en fait, et ce qu'on a fait des simulations pour, on parle d'environ 1000 watts et plus. On a fait une simulation sur une Tesla Model 3. On est capable de mettre environ 1000-1100 watts en couvrant le toit, la vitre arrière, et des vitres aussi dans les fenêtres des passagers.
Mm-hmm.
Et là, en fait, on est capable d'aller chercher un 20 à 30 km quotidien. Donc l'idée, en fait, c'est qu'avec ça, on va pas dire on va vous prolonger votre autonomie de manière significative. C'est plus, on va vous permettre, en fait, de faire vos trajets quotidiens. La plupart des gens en ville font environ ce trajet-là avec l'énergie solaire. Donc vous n'aurez plus besoin de penser où est-ce que je pourrais charger mon véhicule, est-ce que j'aurai assez d'autonomie pour rentrer chez moi, etc. Tout ça sera en quelque sorte géré par le panneau solaire. Et Hydro-Québec vont peut-être faire un peu moins de cauchemars par rapport à tous les véhicules électriques, à tous les véhicules des routes qui deviennent électriques. Parce qu'il y aura encore une fois cette résilience énergétique directement avec les véhicules.
OK.
On peut imaginer que là où il fait plus soleil qu'au Québec, ça va être plus attrayant aussi. Mais quand vous dites des panneaux solaires sur la lunette arrière, j'imagine qu'on parle de panneaux qui sont transparents, qui sont souples. Alors, quel genre de technologie vous avez développé?
Exactement. Donc, nous, la technologie qu'on est en train de développer en ce moment, c'est une technologie de panneaux solaires semi-transparents. Donc, ça nous permet justement de couvrir plus de surface que des panneaux solaires silicium comme Toyota l'ont intégré que prévu. Donc, on est capable de couvrir des fenêtres. Imaginez un peu comme comment on appelle ça, des films teintés pour les véhicules automobiles qu'on utilise aujourd'hui.
Mm-hmm.
Ces films teintés, en fait, seraient solaires. Donc, nous permettraient d'augmenter l'efficacité du véhicule. Et l'autre avantage, en fait, que j'ai oublié de mentionner, c'est que les batteries des véhicules, eux aussi, et les véhicules électriques sont de plus en plus efficaces. Donc, chaque kilowattheure, donc chaque unité d'énergie qui dans le passé était consommé pour faire bouger le véhicule, aujourd'hui on parle d'une consommation qui est plus faible. Donc les 200 watts d'il y a 10 ans, aujourd'hui peuvent donner un peu plus. Donc nous, si on vient ramener ça à 1000 watts, on est capable d'avoir un impact un peu plus significatif. Et bien sûr, plus la technologie avance, donc du côté du solaire, si on parle de semi-transparent, c'est esthétique, mais en fait c'est de plus en plus efficace. Donc on parle d'une inefficacité qui augmente du côté solaire, une efficacité qui augmente du côté véhicule. Donc si on se projette dans les 20 à 30 prochaines années, le solaire aura définitivement sa place dans le marché automobile.
Ça, c'est intéressant.
Et on est là pour justement faire ça.
Bon, c'est intéressant à voir. Là, je me mets dans les souliers du consommateur. Est-ce que c'est bon? Évidemment, ça va probablement être offert en option. Est-ce que c'est une option qui va être très coûteuse sur un véhicule de dire, bon, moi, je vais aller chercher 20 à 30 km par jour d'autonomie avec ce système-là? Ça va coûter combien?
L'objectif, c'est que ça coûte le moins cher possible. En fait, la technologie sur laquelle on travaille, elle est basée sur ce qu'on appelle les perovskites. Et c'est un type de cellule solaire qui coûte environ 6% le coût du silicium. Donc le silicium, c'est la technologie qu'on utilise aujourd'hui pour les panneaux solaires, qui est chère, qui est fabriquée dans des usines excessivement complexes, qui consomment beaucoup d'énergie, c'est shippé de la Chine, etc. Là, on parle d'une technologie qui peut être réalisée en laboratoire localement. Donc on vient résoudre aussi des problèmes de supply chain et de tout ce qui est impact environnemental. Donc en termes de coût, on va parler peut-être d'un 1000, 1200, 1500. Je ne vais pas vous donner un coût exact, là, parce que ce n'est pas moi qui va le déterminer.
Non, mais quand même, c'est un coût abordable. On ne parle pas...
Oui, complètement abordable.
OK, ça, c'est intéressant. Et là, j'imagine que cette technologie-là est adaptable à toutes sortes de véhicules. Là. On peut le fabriquer pour à peu près n'importe quoi, j'imagine.
Exactement, c'est l'objectif. Là, aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas le marché automobile. On s'est trouvé des niches de marché où à court et à moyen terme, Cap Solar est capable de produire et de vendre. Parce que le marché automobile, disons que c'est vraiment un gros casse-tête pour être capable de percer le marché automobile.
Ah, c'est pas facile. Oui. C'est un marché difficile. Puis c'était ma prochaine question. Est-ce que vous avez déjà entamé des discussions avec certains constructeurs?
Oui, bien en fait, okay. Mercedes a été notre premier client à l'échelle d'échantillon. Donc en octobre 2023, on a envoyé, puis Mercedes a payé pour acheter des premières cellules semi-transparentes pour les tester de leur côté.
Okay.
On a des intérêts aussi du côté d'Hyundai, Hyundai en Corée, qui sont aussi très intéressés par l'énergie solaire. Donc et aussi tout ce qui est équipementier. Donc les entreprises qui fabriquent des systèmes de toits,
évidemment,
des toits panoramiques, etc.
OK. Donc la démarche est commencée, disons-le comme ça, là.
Oui, la démarche est commencée. Okay. Seulement, c'est quelque chose qui va prendre des années. Donc, en parallèle, on veut aussi bâtir une entreprise stable qui génère des revenus en moins de 5 ans. Parce que le marché automobile, là, on parle de commencer à vendre des panneaux et d'intégrer dans toutes les voitures de les routes dans les 5 à 7 prochaines années. Là, ça prend du temps. Mm-hmm. Donc, on voulait déjà s'établir en tant que leader dans le secteur de l'énergie solaire des transports, en fait.
OK. Monsieur Benhamza, on le sait, la technologie évolue très rapidement. On parlait, vous me disiez, d'à peu près 200 watts il y a quelques années. Vous êtes autour de 1100 watts. Est-ce qu'on vise à améliorer ce chiffre-là dans des prochaines années? Est-ce qu'on peut penser à aller à 1500 watts ou à 2000 watts avec le développement de nouveaux panneaux solaires?
C'est clair, le wattage, donc la performance des panneaux est limitée à un certain niveau, ça c'est sûr. Parce qu'à un certain moment, le panneau solaire ne peut pas être 150% efficace et créer de l'énergie par rapport au soleil. Donc, on va être limité par rapport à l'efficacité en tant que telle. Mais l'avantage, en fait, c'est que plus le temps avance, plus de surface du véhicule, on va être capable de couvrir.
Comme je
l'ai dit, dans le passé, l'enjeu, c'était qu'on a des panneaux solaires opaques. On peut seulement couvrir le toit, peut-être le pare-choc en avant. Maintenant, si on parle de semi-transparent, on peut couvrir les fenêtres. Si on parle de quelque chose qui est quasiment invisible, on peut couvrir la carrosserie du véhicule parce que ça ne va pas venir changer la couleur. Donc, on vient, en fait, être capable d'utiliser toute la surface du véhicule, donc avoir un véhicule totalement solaire. J'imagine que ce serait ça l'objectif dans le futur, mais bon, ça va prendre du temps, comme je l'ai expliqué, c'est tout un développement technologique.
Il y a de l'espace pour du développement, ça c'est intéressant à savoir. Bon, en tout cas, merci beaucoup M. Benhamza, vous avez été bien gentil. Je pense qu'on a découvert, là, je vous rappelle, la compagnie s'appelle Cap Solar. Vous êtes fondateur et PDG de la compagnie. Vous travaillez sur des panneaux solaires pour être utilisés en automobile, donc suivez ça, vous allez sur Internet, c'est facile à trouver. Monsieur Benhamza, merci pour votre temps. Puis quand vous aurez d'autres belles trouvailles, tenez-nous au courant, on va en parler.
C'est sûr. Merci beaucoup à vous.
Merci
bonne
beaucoup.
Journée,
merci
j'espère
beaucoup.
Vous revoir bientôt.
Merci. Revoir. Alors nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple.
Okay, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Et voilà, c'est le temps de parler de nos essais routiers. Mais juste avant, évidemment, je voulais vous parler aussi de notre émission. Vous pouvez l'écouter à la radio, si vous êtes à la radio.
Si vous attendez, c'est que vous nous écoutez, nécessairement.
Absolument. Alors, on est là le dimanche à 18h, ça c'est au 98.5. On est un petit peu partout en province aussi. J'ai pas les horaires, mais il faudrait bien que je les attrape. Ça fait une couple de fois, je dis ça, puis à chaque fois, j'oublie.
Mm-hmm.
On est sur les plateformes... vos plateformes préférées de balado.
Ben oui.
On est sur le 98.5fm.ca dans la section balado. Et sur annuelauto.ca, on fait une mise à jour chaque semaine et on est là pour vous guider le mieux qu'on peut. Hein? On fait notre gros possible. Et je voulais vous parler aussi deux petites secondes de la chronique Écolo-Auto. Cette semaine, le gouvernement, c'est pas cette semaine, c'est il y a quelques semaines, le gouvernement a déposé son budget. Si vous voulez avoir les détails, parce qu'on n'en a pas parlé en détail à l'émission, en fait, c'est arrivé en deux émissions.
C'est tombé,
c'est tombé comme entre l'arbre et l'écorce. Mais on va vous référer avec Écolo-Auto. Ils ont fait un dossier complet sur les subventions accordées, ce qui va rester d'ici 2027, le 9, l'occasion. Donc, on va vous aiguiller vers un article qui vous donne toute l'information à ce sujet-là et vous pourrez aller voir tout ça.
Quoique, longue histoire courte, il faut faire ça vite si on veut en profiter. C'est ce qu'il faut retenir de tout
ça. En fait, il faut tenir deux choses. C'est qu'à partir du 1er janvier 2025, la subvention va tomber à 4 000 $ au provincial.
Pour le
parce
9,
que pour,
ouais,
on n'a rien annoncé au fédéral. Ça va être 2 000 l'année suivante et ça va être rien en 2027. Et la subvention, on vous l'accorde au moment de l'immatriculation du véhicule.
Quand on vous remet la clé.
Parce que moi, il y a des gens qui m'ont envoyé des courriels cette semaine. Je suis sur une liste d'attente pour tel modèle. Ça, ça veut rien dire, ça. Mm-hmm. Quand on vous remet la clé, l'immatriculation, donc vous avez jusqu'au 31 décembre.
Ouais. En fait, si vous êtes sur une liste d'attente, assurez-vous que personne passe devant vous parce qu'il y a bien des cas de
documentés. Non, ça n'existe pas, ça.
Tu passes pas. Fait que si vous voulez arriver à temps puis vous êtes un peu stressé, informez-vous, gardez ça à l'œil.
Absolument. Alors voilà, vous êtes averti. Vous pourrez aller voir la chronique en question. Oui, Alain, tu nous parles de quoi cette semaine? T'as su un Tesla, toi?
J'ai eu une fin de semaine super chargée l'autre jour avec... ça, c'est un jeu de mots. Je suis peut-être la seule personne
chargée.
Qui comprend ça ici.
Oh,
ben voilà, j'ai conduit un modèle Y de notre marque automobile préférée, Tesla. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas eu la chance de conduire une Tesla pour des fins d'essai routier, alors que l'occasion s'est présentée. J'ai rapidement sauté dessus, n'est-ce pas?
Absolument. Les occasions se présentent pas souvent.
Ben voilà, je vais remercier les gens de Turo. Là. Turo, c'est une application de location à court terme de véhicules pour particuliers. J'ai dit tantôt, c'est comme le Airbnb de l'automobile, hein, parce qu'on le sait, avec Airbnb, on peut mettre son propre logement en location. Évidemment, je n'embarquais pas dans le débat sur s'il faut le faire ou pas, là, mais ça existe comme plateforme. Ben, c'est la même chose avec Turo. On peut mettre sa voiture en location à court terme sur l'application. On peut aussi faire l'inverse, en louer une pour quelques jours. Et j'ai trouvé sur l'application un modèle Y prêt pour la route. Donc, j'ai opté pour cette option de location 2 jours avec 400 km par jour en me disant, je vais faire Montréal-Québec aller-retour. On va essayer ça, on va voir ce que ça donne. J'étais un peu chanceux, j'ai pris l'assurance complète pour une location de 2 jours. Et 2 heures plus tard, j'ai vu que j'avais un pneu à plat. Donc, j'étais content, j'étais assuré. Fait que les gens de Turo m'ont donc proposé un autre modèle Y en échange, une version performance à 2 moteurs, donc pas mal plus oomph que la première, qui était la version de base, et qui vient justement de voir son prix baisser juste assez pour être admissible à l'aide à l'achat gouvernemental. Donc, tout plein de bonnes raisons pour vous en parler. Je sais pas si ça valait la peine d'avoir une crevaison, mais bon, je remercie quand même Turo parce qu'ils ont sérieusement un service qui, dans mon cas, en tout cas dans ce cas-ci, était impeccable. Évidemment, comme je suis un journaliste qui faisait ça pour en parler, peut-être qu'ils ont été plus... ils ont pris plus soin de la situation. Mais dans l'ensemble, je veux dire, si vous êtes curieux, j'ai regardé des chiffres. Je veux pas m'éterniser sur le sujet de Turo, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent, ça vaut peut-être la peine même de pas acheter de véhicule et de temps en temps en emprunter un sur des plateformes comme celle-là et de quand même faire payer moins cher à la fin de l'année. Donc, vous pouvez imaginer que c'est une solution pour les gens qui sont justement à la recherche d'un moyen de réduire leurs dépenses, notamment au côté de transport. Le modèle Y que j'ai finalement conduit là, de Montréal à Québec et de retour jusqu'à Montréal, évidemment, coûte 72 000 $ quand on l'achète avant l'aide à l'achat. C'est une autonomie annoncée de 459 km qui s'affichait à peu près 420 km sur le véhicule que j'ai essayé. Je devrais dire sur l'unique écran du tableau de bord parce que Tesla a cette façon de concentrer. Ce qui, bon, fait débat, j'imagine, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée pour réduire les coûts de production, de minimiser le nombre de gadgets à bord. Le tableau de bord est entièrement dégarni. Tout se passe par l'écran central. Il y a 2 molettes sur le volant. L'écran est assez grand et on trouve tout sur l'écran, sauf les interfaces connectées d'Apple et de Google que Tesla refuse d'adopter. Ils ont certainement des bonnes raisons. C'est une question de choix, j'imagine. Cela dit, sur l'interface du véhicule, on trouve des applications en tout genre. Il y a des jeux vidéo là-dessus. Je pense que Netflix.
T'as regardé des films, t'as YouTube.
Qui, évidemment, tout ça sert quand on est branché immobile. Mais on a aussi Spotify, Apple Music, d'autres applis parmi le catalogue qu'on peut installer directement sur l'appareil. Donc, c'est moins grave de ne pas avoir ces interfaces connectées-là parce que, bon, il y a beaucoup d'options de rechange. Le modèle Y que j'ai essayé n'avait pas beaucoup de gadgets installés d'office. Le régulateur de vitesse était adaptatif, donc pas d'autopilote. Il s'active, ça c'est intéressant, il s'active même le petit levier de transmission. Donc, on peut aller à drive et ensuite on peut aller à cruise control, je vous le dis en anglais parce que c'est l'expression. Mais ça permet justement plus facilement de gérer sa conduite. C'est drôle parce qu'on a tendance à présenter Tesla comme une marque de luxe, mais tout dans le modèle Y, et ça vaut aussi pour le modèle 3, on en parlait tantôt, aide à nous convaincre un peu du contraire. Là, c'est des véhicules qui sont surtout de belles vitrines technologiques, je vais le dire comme ça, et je n'associe pas nécessairement le fait de pouvoir bondir de 0 à 100 km en 4 secondes à une caractéristique de luxe. J'ai plus l'impression que c'est une caractéristique de performance, évidemment.
Oui, absolument.
Mais c'est pas tout à fait la même chose.
Ben en fait, c'est surtout quand on regarde ce qu'on peut avoir d'électrique au même prix ailleurs, on dit « Oh, il en manque chez Tesla. »
C'est surtout au niveau du prix que ça vient de marque de luxe, parce que c'est pas exactement abordable.
Tu parlais du Ioniq 6 la semaine passée.
Ben
t'as le plus bel exemple. Ioniq 6 est beaucoup moins cher et beaucoup plus luxueux que n'importe quel Tesla. Là.
Exactement. Cela dit, sur la route, le véhicule a un comportement extrêmement doux qui est peut-être de luxueux pour les gens qui aiment les véhicules plus doux. On a une bonne visibilité vers l'avant, mais vers l'arrière, et malgré que ce soit plus une version familiale ou VUS du modèle 3, la petite lunette du hayon est vraiment étroite. On voit pas super bien. c'est pas la fin du monde, mais ça devient un peu irritant à la longue. Côté confort, ben à l'arrière, les enfants ont eu de la misère à tenir tous les trois, parce que j'ai trois enfants, sur la banquette en même temps. C'était un peu serré, surtout pour un trajet assez long, là, 200 km, c'est quand même deux heures quelques. Je me serais attendu à avoir un peu plus d'espace, vu la forme du véhicule, qui est quand même assez arrondi, assez gonflé vers l'arrière. Bien des gens l'ont dit avant nous, la plus grande qualité des Tesla se trouve pas dans les véhicules, mais dans le stationnement des centres d'achat partout en Amérique du Nord, parce que ce sont les superchargeurs qui font toute la différence.
En fait, c'est probablement la meilleure idée qu'a eu Elon Musk.
Clairement.
Parce que lui, au début, et en plus, lui avait vu ça comme une commodité au début, puis ça s'est avéré être le plus gros argument de vente.
Exact.
Parce que d'abord, tous les chargeurs sont rapides, ça, il faut le dire. Là. Mm-hmm. C'est tous des chargeurs de 150 ou de 250 kilowatts. Il y en a énormément et on n'arrête jamais longtemps.
Voilà.
Donc, pour un acheteur, moi, je connais des gens qui m'ont dit « Je ne suis pas un maniaque de Tesla, mais j'ai pris une Tesla juste pour ça, parce que je sais où est le réseau, il y en a partout, je peux me charger régulièrement où je veux. » Et ça a été l'argument de vente qui a fait en sorte qu'ils sont allés là et non ailleurs.
C'est un gros différenciateur. J'aurais pu faire l'aller-retour Montréal-Québec sans la brancher, la voiture, parce que j'avais assez d'autonomie. Mais arrivé en banlieue de Québec, il y avait une série de superchargeurs et j'avais une heure de temps libre. Alors, on s'est branché 25 minutes et 20 $ parce qu'on peut s'abonner ou pas et payer à l'utilisation. On a quand même fait passer la charge en 25 minutes là, de 38 à environ 90 %. Ce qui nous donnait plus que 200 km d'autonomie bonus. Donc, c'est quand même assez impressionnant. J'ai trouvé ça assez rassurant pour les gens qui ont un petit peu cette angoisse, cette fameuse angoisse de la pile morte. Là, ça disparaît vraiment rapidement quand on a accès à des réseaux de bornes comme celui-là. Et sans surprise, d'ailleurs, ça explique pourquoi les autres constructeurs veulent aussi avoir accès à ces réseaux-là. Ils sont partout, ils sont rapides, ils sont fiables. Surtout aux États-Unis, ils ont des gros problèmes sur les réseaux publics de bornes qui tombent en panne souvent.
À part Tesla aux États-Unis, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un réseau fiable.
Non, exactement.
T'sais, ici, on a un circuit électrique qui est très fiable, qui fonctionne extrêmement bien. Mais aux États-Unis, là, à part Tesla, là,
c'est pas aussi le fun que le circuit électrique.
C'est vraiment pelle ou face.
Absolument.
Là.
vu son prix, ou peut-être un peu malgré son prix, en tout cas dans le contexte du marché des voitures électriques, on n'est pas tellement surpris que la modèle Y soit si populaire au Québec.
Ah oui.
C'est un modèle qui va continuer d'être populaire au moins jusqu'en 2027, je dirais. Surtout si Tesla continue de baisser les prix, parce qu'eux aussi, ils arrivent à profiter de la baisse des prix des matériaux pour, sans trop l'annoncer, mais assez régulièrement, là, faire des réductions qui finissent par faire la différence. Donc, à suivre, c'est un véhicule qui va probablement aussi être un petit peu rafraîchi maintenant que la modèle 3 a eu droit à une refonte pour 2024.
Ça devrait être le prochain en liste, logiquement.
Ça devrait être un véhicule que si vous magasinez l'électrique, peu importe ce que vous pensez de Tesla ou d'Elon Musk, il faut le mettre sur votre liste, ce véhicule.
Bon, ben c'est dit, c'est prononcé. Moi, de mon côté, je suis complètement ailleurs. On était à Salt Lake City, au Utah, pour l'essai du nouveau modèle Ranger 2024. C'est un modèle qui arrive là, au moment où on se parle. Les premiers modèles arrivent ou sont déjà en concession.
Mm-hmm.
On a élargi la gamme. Oui, on a changé un peu physiquement le véhicule. Là, un petit peu plus long, un petit peu plus arrondi, forme des phares un peu différente. Équipement plus haut de gamme dans l'habitacle. Ça, c'est une bonne différence. On a maintenant des écrans dans le style du Mach-E et du Lightning, c'est-à-dire un écran verticaux qui va jusqu'à 15 pouces dans les modèles optionnels. Donc, on a des écrans de bonne taille. Mais ce qu'il faut surtout savoir, et ça, j'étais un peu surpris d'entendre ça, mais bon, ça, c'est Ford USA qui nous recevait. Donc, on était avec Ford des États-Unis. Bon, c'est un groupe de Canadiens. Mais eux nous disaient qu'une des plaintes des automobilistes ou des propriétaires de Ranger, c'est qu'il n'y avait pas assez de puissance. Or, le 2.3 EcoBoost fait quand même 270 chevaux et 310 livres pieds de couple.
Mm-hmm.
Pour un véhicule, un pick-up moyen, de taille moyenne, c'est plus que raisonnable.
Ça devrait faire la job, ben oui.
Mais on a dit non, OK, parfait, il n'a pas assez. On va en remettre une couche. Fait que là, on va ajouter en 2024 deux moteurs. Il va y avoir le V6 2.7 litres EcoBoost qu'on retrouve dans le F-150 qu'on va mettre dans le Ranger. 315 chevaux, 400 livres-pieds de couple. Et il y a un modèle Raptor qui va s'ajouter à ça avec le 3 litres qu'on retrouve dans le Bronco. Donc, il va avoir 405 chevaux et 430 livres-pieds de couple.
Était-ce bien nécessaire?
Non, mais ça va bien, on peut dire. Non, écoute, on a roulé le modèle 2.3 litres. Donc ça reste essentiellement ce qu'on avait déjà.
Mm-hmm.
Ce qu'on a amélioré, c'est la tenue de route. C'est un peu saccadé, c'est un peu rough, entre parenthèses, comme modèle. On a retravaillé la cambrure au niveau de la suspension, on a retravaillé l'étalonnage, on a retravaillé beaucoup de choses pour rendre la conduite plus agréable. Parce que même si les gens disent « Ah, moi, je fais du hors-route, tout ça », il faut être logique. Là. On passe 90 % de son temps sur le bitume, dans le trafic, aller au travail, aller amener les enfants à l'école, chercher l'épicerie. Là, on fait des choses au quotidien qu'on fait avec n'importe quel autre véhicule. Donc, on a rendu cette partie-là de la conduite plus intéressante. Il va y avoir 4 modèles. Le XL, qui est toujours le modèle d'entrée de gamme. Le XLT, le Lariat et évidemment le Raptor. Bon, dans les prix, on parle d'un modèle qui va commencer avec le 2.3 litres à 41 870 $ pour le modèle XL. C'est tout nu un XL. Il n'y a pas grand-chose. En fait, il n'y en avait même pas au lancement. Le modèle qu'il y avait d'entrée de gamme, c'était le XLT, qui a un peu plus d'équipement. On est toujours dans des sièges en tissu. Il y a encore pas mal de plastique. Il est un peu moins laid qu'avant, il faut l'admettre. C'est encore un gros plastique dur, mais un peu plus joli. 46 120 $ ça c'est pour le XLT, toujours avec le moteur 2.3 litres. On est à un peu plus de 54 000 $ pour un modèle Lariat. Et je te le donne en 1000, combien pour un Raptor?
Écoute, j'ose même pas y penser.
77 945 $ Ça, évidemment, il y a juste un moteur, c'est le 3 litres à 405 chevaux. Si vous voulez remorquer 7 500 livres, tant pour la version 2.3 que la version 2.7. On tire la même chose avec les deux et c'est 5510 livres avec le Raptor. Au Canada, il va y avoir uniquement des modèles 4 roues motrices. Il y a des modèles 2 roues motrices aux États-Unis qu'on n'aura pas ici. Et si vous voulez avoir la capacité de charge dans le modèle 2.3 litres, c'est 1711 livres. C'est un petit peu moins parce qu'on a revu les suspensions, mais on est très pratique du côté de Ford. C'est ce que j'aime de la compagnie. On a un peu comme sur le F-150, on a une espèce de place pour mettre le pied sur le pare-choc à l'arrière pour pouvoir avoir accès à la boîte facilement. On a même tassé la suspension et les roues pour qu'il y ait 4 pieds d'espace entre les puits de roues dans la boîte pour être capable de rentrer la fameuse planche de contreplaqué que plus personne achète depuis des années, mais on le voit là, il y a plus d'espace. On a une vitre à l'arrière qui est vitre électrique qui s'ouvre pour avoir accès à la boîte. On a augmenté l'espace à l'intérieur. C'est un vrai véhicule 5 places. Là. Je me suis assis derrière et il y a tout à fait de la place en masse.
C'est un gros petit pick-up.
C'est un gros petit pick-up. Évidemment, on a toujours un cadre qui est entièrement caissonné. C'est la même plateforme que l'ancien modèle, mais il y a une augmentation de 2 pouces de la voie et de l'empattement. Donc, on le sent là, un peu mieux assis. Bon, le modèle Raptor, évidemment, a une suspension, mon vieux, pour traverser les pires terrains.
Pour s'envoler quand on saute le boss.
C'est une suspension Fox là, qui est très connue dans le milieu des gens qui font du hors-route, qui est de très, très haute qualité. Le rayon de braquage est bon. Je vous dirais que on a travaillé aussi au niveau des détails. Le volant chauffant est là à partir du modèle XLT. Il y a deux séries, un combiné d'instruments de 8 pouces qui est entièrement numérique pour le conducteur. À partir du Lariat, c'est un combiné qui est plus de 12 pouces, un peu plus grand. Et je vous le disais tantôt, l'écran est à la verticale comme on a maintenant dans le F-150, dans le Mach-E. Donc, on a adopté la même approche. Autre détail que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle le Pro Trailer Backup Assist. En fait, c'est un système où vous utilisez une molette. On avait là un côte à côte, là, littéralement, là, un 4 places côte à côte, un side by side là, pour ceux
un
qui.
Petit VTT, oui.
Un VTT qu'on avait sur une remorque, qu'on avait mis des cônes et on avait placé un stationnement, là, littéralement, il fallait faire un parallèle. Et bon, on l'a essayé à la bonne vieille méthode, là. Faut penser à l'envers, là. C'est pas évident.
C'est un art.
C'est un art. Mais avec ça, le système d'aide au stationnement, c'est qu'on n'a pas à penser au camion. On regarde dans la caméra. C'est une caméra de recul, évidemment.
C'est
qui nous montre. Oui, oui, littéralement. Et vous tournez à droite. Et vous pensez même pas ce que le camion va faire. Ça, c'est wow. extrêmement facile. Bon, on va pas vite, là. Il faut quand même le faire. Mais si vous n'êtes pas un pro pour reculer avec une remorque, là, ce système-là va vous sauver la vie. C'est la même technologie qu'on retrouve sur la série F, là,
oui,
qu'on a littéralement amené dans le Ranger. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, vous avez une puissance totale de 400 watts qui est disponible dans la caisse. Donc, si vous voulez brancher des choses,
ça, cool.
faire fonctionner mm-hmm. quelques équipements ou en camping, des fois, la cafetière le matin, bon, écoutez, vous ne ferez pas marcher votre maison pour la fin de semaine, là, oubliez ça. Mais pour des petits appareils électriques...
400 watts, t'as un bon café.
T'as un bon café, t'as un grille-pain, t'as des petites choses intéressantes que tu peux installer. Donc, dans l'ensemble, ça reste un véhicule qui est, je dirais, le trois quarts d'un F-150, là, parce que c'est quand même assez gros, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus intéressant comme modèle en 2024. Si vous voulez vous payer à la traite, ben, il y a un Raptor qui va exister, qui arrive plus tard cette année. Mais fort intéressant. Voilà, ça résume notre émission de cette semaine. Merci à Jean-Christophe Ouellet, Alain Mekena et Benoît Charrette qui vous dit bonne route et on se revoit la semaine prochaine.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.